Dans un voyage, ce n'est pas la destination qui compte, mais le chemin parcouru. Je suis Gauthier Zimmermann et bienvenue dans Design Journeys. Design Journeys, c'est le podcast qui part à la rencontre des talents du design francophone. À chaque nouvel épisode, je discute avec un ou une designer à propos de son parcours, de son métier et de son quotidien. Mon objectif est de comprendre et de vous partager leur processus créatif, leur méthode de travail et leur façon de se réinventer. Bonne écoute! Salut Roxane!
Hello Gauthier!
Et bienvenue dans ce nouvel épisode de Design Journeys. Je suis très contente de te recevoir parmi nous ce soir.
Merci beaucoup, je suis hyper contente que tu m'accueilles aussi.
C'est chouette. Roxane, pour les personnes qui ne te connaissent pas, est-ce que tu voudrais bien te présenter s'il te plaît?
Oui, bien sûr. Donc je suis Roxane Lacote, je suis user researcher en freelance depuis un petit peu plus d'un an maintenant. Je ne sais pas si tu veux que je te déroule le parcours un peu de fond en comble.
Écoute, ça tombe bien parce que la deuxième question que je pose d'habitude à mes invités, c'est toujours comment tu en es venu à faire du design, que je réadapte en comment en es-tu venu à faire de la recherche quand tu étais user researcher.
Ouais.
Donc, je veux bien tout ton parcours, s'il te plaît.
Ok, ça roule. Eh bien, comme beaucoup de personnes, moi, je m'amuse à dire que je n'ai pas un parcours typique, commun. J'ai pas fait d'études de design, donc j'ai pas connu la user research par un cursus académique. Moi, je suis issue d'un cursus business, donc j'ai simplement fait une école de commerce à Strasbourg, qui m'a emmenée à partir aux États-Unis notamment pendant un an à Indianapolis, donc la ville qui fait pas rêver, hein, Midwest, mais qui m'a appris pas mal de choses sur le plan perso, mais aussi pro, vu que c'est pendant cette année-là que j'ai pu découvrir un petit peu de loin, on va dire, mais en tout cas pour la première fois, ce qui était l'UX design, par un de mes profs donc de marketing digital là-bas. Mais c'est pas franchement à ce moment-là que ça a résonné en moi. Je veux dire, j'ai pu voir de loin ce qu'était le métier de designer en allant passer une tête une fois dans l'agence de ce prof-là. Mais c'est pas là que tout s'est déclenché. Après cette année aux US, je suis rentrée à Paris. J'ai fait un stage pareil en marketing, tout bêtement, en tout cas, enfin très lié à ce que je faisais en termes d'études. Stage de marketing, donc de trade marketing chez Heinz, qui est le grand groupe, donc pas Ketchup, hein, qui est le grand groupe qui détient les marques Dim, Wonderbra, Playtex notamment. Et dans mon job, je devais me rendre souvent en boutique, Dim sur Paris, pour mettre en place les scénographies des vitrines. Et dans les vitrines, on met des produits. Et pour savoir quels produits je devais mettre en vitrine, je devais pas mal regarder les chiffres, les tableaux, etc. Sur Excel, chose que je n'aimais pas beaucoup faire. Et je me suis rendu compte qu'en parlant pas mal avec des vendeuses, avec des clientes, je pouvais finalement me rendre compte des produits qui plaisaient. Je me suis demandé si cette chose-là, c'est-à-dire parler avec des gens pour savoir ce qui allait et ce qui n'allait pas, n'était pas un métier. C'est là que j'ai commencé à comprendre un peu mieux, ou en tout cas à refaire la boucle, d'abord avec l'expérience client, du coup. J'avais pas mal dans l'idée de rester vraiment dans l'expérience client, presque plus lieu physique, etc. C'était plus lié au job en plus que j'avais à ce moment-là, donc ça m'appelait un peu plus. Et j'avais, autant te dire, zéro notion de marketing digital, web and co. Mais j'ai commencé à regarder un peu ce qui se faisait sur Paris en termes d'expérience client. Ça m'a fait dérouler vers l'expérience utilisateur et les quelques agences qu'il y avait à Paris autour de ça. Et j'ai donc décidé, enfin en tout cas... essayer d'intégrer l'agence Accence, donc qui est une des agences pionnières en termes d'UX design en France. Donc j'ai poussé la porte d'Accence. Tu t'en doutes bien, pas en tant que UX designer ou user researcher avec le grosso modo zéro expérience que j'avais avant. Donc je suis d'abord arrivée en tant que chef de projet UX, donc avec pour objectif d'encadrer les équipes design, donc UX designer, UI designer, UX researcher, donc d'encadrer on va dire leur travail, de leur donner l'espace nécessaire pour qu'ils puissent faire ce dont ce dans quoi ils étaient juste très bons, c'est-à-dire leur taf, et tout en faisant attention donc que toutes ces réalisations-là rentraient dans le cahier des charges, dans le besoin en tout cas du client. Donc j'ai été chef de projet UX pendant environ 2 ans. J'ai beaucoup bossé avec des personnes hyper inspirantes, que ce soit en UX design ou en UX research, mais c'est tout de même les user researchers avec qui j'ai pu bosser du coup en duo qui mettaient à chaque fois des grosses étoiles dans les yeux. Je trouvais le métier incroyable, la valeur ajoutée incroyable sur tous les projets qu'on avait pu faire. Et j'avais vraiment le ressenti que ça pouvait beaucoup convenir à simplement à ma manière d'être et à mes aspirations. Et j'ai juste demandé en fait un changement de poste en pitchant un petit peu pourquoi je pensais que ça pouvait être intéressant. Je comprenais aussi que, et c'est là en fait que mon parcours devenait un peu intéressant, tu vois, de me dire bah moi j'ai eu une vision assez business. En encadrant aussi des projets, ça a, on va dire, décuplé cette vision business. C'est quand même les besoins de mettre dans la balance, on va dire, les besoins business en face des besoins utilisateurs. Et du coup, ça a été accepté. J'ai pu devenir user researcher avec ce prisme business assez intéressant. Donc j'ai fait, franchement, je suis hyper contente de la confiance que mon ancienne agence du coup m'a laissée sur ça, parce que ça aurait pu être du grand n'importe quoi ou un échec, et je pense pas que ça l'ait été, donc ça c'est hyper cool. Et du coup j'ai pu monter directement sur un projet assez impactant pour Air France, avec pas mal de dispositifs research différents, des interviews, des user tests, de l'observation terrain, des interviews des personnes qui travaillent dans les call centers aussi. Donc ça m'a déjà fait, avec un client, voir pas mal de facettes du métier. Et après ça, j'ai enchaîné du coup à l'agence pas mal de missions, mais avec des grands comptes, donc des assez gros clients, beaucoup dans la banque assurance, qui est assez classique, mais aussi pour des choses un peu plus cool, en tout cas à réaliser, type pour Amazon avec Alexa, donc ça c'était hyper chouette, Air France comme je te l'ai dit, voilà. Donc en fait, pas mal de gros voilà, client, gros sujet, et j'ai passé en fait mes 9 derniers mois chez Accenture à accompagner de manière hyper étroite une équipe chez Natixis sur un plateau innovation. Et donc j'ai été chez eux et avec eux, avec l'équipe pendant ces 9 mois-là, et c'est un peu à ce moment-là que je me suis dit, ok, tu travailles avec tes clients, ça se passe bien, t'es pas dans le cocon agence, et ça se passe bien. Peut-être que tu peux essayer de le faire aussi par toi-même. Je sentais qu'il y avait des choses qui me poussaient. Il n'y avait rien qui me freinait vraiment à être à l'agence, mais il y avait des choses qui me poussaient à me dire, peut-être que tu peux le faire par toi-même. Peut-être que tu peux essayer aussi d'aller voir des clients qui ressemblent un petit peu plus à ta manière de bosser. Voilà. Donc, je me suis dit, vas-y, lance-toi. Donc, je me suis mise à mon compte il y a un peu plus d'un an. Et donc, voilà, aujourd'hui, j'accompagne... principalement, j'adore bosser avec ce type de clients-là, et donc je suis hyper contente, mais c'est pas non plus, je suis pas rebutée sur d'autres types de clients, mais j'accompagne aujourd'hui beaucoup des startups et des scale-up françaises. Je les accompagne pour connaître mieux les besoins, les attentes de leurs utilisateurs, pour les aider à concevoir des produits, des services qui répondent à de vrais besoins encore plus vite, parce que la rapidité, ça reste quand même un des gros enjeux avec ces entreprises-là, et voilà, et je m'éclate complètement.
Merci beaucoup. J'ai plusieurs questions sur lesquelles j'aimerais revenir, et sur certains points de ton parcours.
Ouais.
Avant qu'on rentre là-dedans, j'aimerais bien que tu nous écrives déjà pour toi ce que c'est concrètement qu'une UX researcher.
Alors, être user researcher, pour moi, c'est être la porte vers les utilisateurs, alors j'ai envie de dire de son client, mais de son entreprise, etc. Être user researcher, c'est réussir justement à permettre aux autres équipes, que ce soit produit, marketing, growth, direction, de prendre des décisions un peu plus éclairées en prenant en compte les besoins réels des utilisateurs, les comportements réels des utilisateurs. Donc, un user researcher, pour moi, ça a simplement pour mission de pouvoir se dire, OK, on a des intuitions, elles sont peut-être très bonnes, elles sont peut-être à challenger, comment on fait, eh bien la user research est une solution pour aller justement rechallenger ces intuitions-là et prendre des décisions produits, notamment, qui sont plus éclairées.
Très clair, merci. Tu l'as dit au tout début, tu es issu d'une école de commerce.
Ouais.
Moi aussi, j'ai fait école de commerce, c'est pour ça que j'ai envie de poser une question là-dessus. Est-ce que tu penses que ton parcours de marketing t'a aidé à faire de la recherche utilisateur et t'a donné les bases pour avancer là-dedans?
Alors, mes études de marketing en soi, j'ai pas envie de mentir et je vais te dire non. Je pense pas que ce soit mes études en marketing qui aient fait quelque chose. Je pense que si j'avais fait des études en finance, enfin un cursus finance, ça aurait été la même chose. Mais je pense que c'est plutôt, tu vois, vraiment la notion business. De se dire que on a beau défendre les besoins de nos utilisateurs, on n'est pas non plus en train, enfin, on bosse pas dans une association à but non lucratif, et donc de fait, il faut qu'on fasse du business. Et je pense que, tu vois, cette casquette plus business me permet vraiment de se dire, il y a les besoins utilisateurs, soit, on fait le max pour les écouter, mais il n'y a pas que ça, il y a autre chose en face qui sont les besoins business, et comment on trouve la bonne balance à chaque fois. Il faut forcément qu'une décision qu'on peut prendre en faveur de l'expérience utilisateur puisse avoir, enfin, répondre aussi à des enjeux business. Sinon, tout simplement, on peut pas vendre le produit, on peut pas vendre le service. Donc, je pense que c'est plus ça, tu vois, de me dire, peut-être, mais alors vraiment, c'est une hypothèse, et je dis pas que c'est vrai, mais peut-être, et en me connaissant en plus, peut-être que si j'avais fait des études purement design, j'aurais moins eu cette casquette-là, et peut-être que j'aurais été plus à me dire, ah, il faut vraiment qu'on fasse ça pour eux, c'est hyper important, et limite à être frustrée, triste, si les insights que je pouvais ramener n'étaient pas pris en considération. Donc voilà, je pense que, et c'est pour ça que, quand je te dis que les résultats d'une user research permettent d'aiguiller des décisions produits ou des décisions business, c'est vraiment ça, tu vois, c'est pas forcément tout prendre au pied de la lettre, c'est plutôt de se dire voilà ce qui se passe, on sait vers quoi on va, quelle décision on peut prendre par rapport à ça, tu vois, c'est pas juste se dire on a entendu que 6 sur 8 utilisateurs voudraient qu'on fasse ça comme ça, et ben on le fait go et on réfléchit pas, tu vois. Donc voilà, je pense que moi c'est plus la vision business de manière générale, c'est pas forcément mes études marketing en soi qui font que, je pense.
Ok, t'as plus appris sur le terrain, tout ce qui est après comment mener un test utilisateur, enfin on y reviendra, mais comment faire un test utilisateur, comment discuter, comment faire des hypothèses.
Okay. Oui, complètement, oui.
Est-ce que tu peux nous expliquer ce passage de l'agence à la startup, à la scale-up, qu'est-ce qui t'a donné envie d'y aller? Parce que, je vais faire un peu du name dropping, t'as travaillé avec Swile, Itch et Agicap, j'ai reçu un invité de chaque entreprise, je mettrai les liens dans la description pour ceux qui veulent en savoir plus sur ces boîtes-là.
Ouais.
Et après avoir parlé avec chacun de mes invités, ce que t'expliquais tout à l'heure, c'est que c'est quand même des boîtes qui vont très vite, qui généralement n'ont pas vraiment le temps, qui n'investissent pas forcément dans la recherche, alors que les plus grosses entreprises ont généralement l'impression d'avoir les moyens de le faire et de se permettre de prendre du temps dessus. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te dire d'aller vers ces entreprises qui généralement considèrent la recherche comme un peu le maillon faible des métiers design et du coup qui doit passer à la fin?
Ouais, franchement, c'est une super question. Comment je suis passée à ça? Alors déjà, tu vois, moi, quand je suis partie d'Accenture, j'avais pas du tout un plan en tête. Hein. Je me disais pas mes clients ou alors mon client phare, mon client target, c'est de la startup, de la scale-up. Pas du tout. Mon client, c'était celui qui allait me donner de l'argent et me permettre de me nourrir à la fin du mois. Donc, j'étais ouverte à tout. Mais il s'avère que j'ai eu trop de chance parce que sur mes toutes dernières semaines chez Accenture, Romain qui était COO à l'époque chez Swile, qui est passé CPO il y a peu, Romain Libaud est venu vers moi, je crois qu'il m'avait vu sur LinkedIn ou Malte, en me disant qu'ils avaient besoin d'un support research sur de la discovery, sur une feature en particulier. Donc j'ai fait ma petite présentation, je suis partie chez Launcher à l'époque, leur présenter tout ça, mon petit protocole, ma petite méthodologie, très classique, on va dire, tu vois. Et je me rappellerai toujours d'un truc avec Romain, enfin avec Rome, c'est qu'à ce moment-là, Donc je leur fais ma presse et puis il me dit écoute, faut qu'on soit clair dès le départ, chez nous c'est no bullshit. Voilà. Donc là, tu nous parles, moi ça me parle, on peut essayer. Donc bref, on s'est lancé, mais je me suis gardée en tête, ok, on se connaît pas, il me dit direct no bullshit. Bon, mais j'ai parlé comme ça, tu vois, enfin, un client m'avait jamais. Enfin, ce franc parler un petit peu que moi je connaissais pas du tout quand je bossais avec, avec des boîtes un peu plus classiques, on va dire. Et donc moi j'ai bossé 2 mois. D'abord donc avec Launcher, avec ma méthodologie toute bien faite, carrée, etc. Et en mode mission, tu vois, ça passait bien parce que c'était 2 mois de discovery, tout était assez assez clair. On a appris des, enfin on a eu des enseignements assez ouf. On a fait des personas, des customer journées. On a priorisé tout ce qu'on pouvait apporter comme comme amélioration, etc., etc. Donc bref, hyper clair, ça passait bien. Et en fait, là où je veux en venir, c'est que tu vois, quand je suis revenue chez Swile, du coup, après, pendant 9 mois, donc quand ils ont changé de nom, etc., et que je les ai accompagnés, là, je me suis dit, ok, ma grosse, tu vas laisser tomber tes méthodologies construites au jour près, machin, les trucs que t'as appris, vu et revu pendant des années, parce que ça passe pas, ça marche plus, t'as pas le temps, on n'y croit pas. Donc bref, je pense qu'on va en parler dans un deuxième temps, mais en tout cas, tu vois, donc, pourquoi je suis allée vers ce type de client-là? Déjà, c'est j'ai eu la chance que Rome vienne vers moi. Ensuite, Itch, j'avais écouté un podcast de Julien Pelletier qui était Head of Product, super bêtise, ou Head of Design.
Head of Product Design.
Bah, voilà, comme ça, bon, à l'époque. Donc, j'avais écrit un petit message après en mode, ah, tu parles research dans ton podcast. Écoute, si tu veux qu'on en discute, il n'y a pas de souci. On a parlé. Et donc, j'ai fait une mission pour eux ensuite. Et tu vois, je sais pas, il y avait une dynamique et j'avais l'impression que même en cours de projet, quand j'étais en train de donner des insights, je voyais des gens derrière qui s'activaient, qui étaient chauds pour que les choses changent, qui étaient surdispo, etc. Honnêtement, j'avais moins l'habitude de voir ça avec le type de client avec qui je bossais avant. Et donc, c'était une évidence totale par le fit qu'il y avait eu déjà initialement entre les équipes avec qui j'avais bossé chez Swile et par le produit et par plein de choses. Ça a été une évidence de retourner avec eux pendant plusieurs mois quand ils me l'ont proposé, et en ayant été baignée dans cet univers-là, tu vois, enfin, il y a une des valeurs de chez Swile qui est, on est des doers, c'est vrai. Je suis devenue une énorme doers en étant avec eux aussi, et tu vois, j'ai plus envie de perdre ça parce qu'il y a une dynamique de fou dans ce type d'entreprise-là. Je trouve que c'est des boîtes où tu vois très rapidement aussi l'impact que la user research peut avoir. Donc, il faut beaucoup plus batailler pour mettre les choses en place, pour que ça change, parce que ça va tellement vite. Donc, tu peux même pas te poser 2 secondes pour dire, OK, quels sont les process aujourd'hui? Qu'est-ce que ça peut être demain? Est-ce qu'on essaie pas? C'est beaucoup plus compliqué, évidemment. Mais ça en vaut la peine parce que dès que les choses changent un petit peu, tu sens que tu apportes de l'impact positif aux équipes avec qui tu bosses. Et voilà, ça va hyper vite. Et ce type de boîte-là me plaît aussi parce qu'au final, c'est des entreprises qui sont OK pour qu'on essaie des choses qui ne sont pas dans le cadre, tu vois. Et donc, qui ne sont pas choquées et qui sont surtout très demandeuses. Par exemple, qu'une phase de discovery qui pourrait te prendre, si tu passes par une agence, 4 à 6 semaines, ne te prennent qu'une semaine du moment où tu recrutes tes utilisateurs jusqu'au moment où tu livres les résultats. Et donc forcément, tes méthodes, elles sont pas tendues à 4 épingles, et c'est pas grave, vraiment. Et je pense que voilà, certaines personnes du métier sont pas hyper d'accord avec ce que je peux dire, je pense. Donc je dis pas du tout que j'ai la science infuse là-dessus, c'est juste ma vision, mais pour moi c'est pas grave si c'est pas parfait. Et voilà, donc j'aime bien le terrain de jeu qu'on peut avoir en tout cas dans ces boîtes-là parce que ça va vite et qu'on peut essayer des choses intéressantes.
On reparlera tout à l'heure un peu de justement tout ce que tu proposes et comment tu travailles, mais du coup, tu, si je comprends bien, tu dirais que dans les startups, c'est quoi? C'est un petit peu plus compliqué de vendre la recherche au départ, mais une fois que tu as mis un pied dans l'entreprise, c'est beaucoup plus simple de leur vendre des méthodologies une fois que tu leur as montré une première fois que ça marche et ce que ça peut apporter?
Ouais, bah tu vois, il y a la vision de la user research aujourd'hui, c'est hyper académique, ça prend du temps, ça va forcément ralentir le cycle de conception. C'est très vu, enfin tu vois, c'est un peu, c'est le chiffre, la data, le quanti est hyper attendu. Le quali, on a un peu l'impression, alors je dis on, mais en tout cas certains profils dans les entreprises en particulier, tu vois, on a un peu l'impression que bah c'est justement c'est du bullshit, ouais, on parle avec des gens, d'accord, mais bon, voilà, ça prend du temps. Donc tu vois ce travail-là de dire ok, voilà tout ce qui est possible de faire, voilà pourquoi c'est intéressant de le faire. Non, ça prend pas trop à plomb. Voilà.
Comment tu fais justement de manière concrète pour les gens qui nous écoutent et qui voudraient un peu mettre en place la user research dans leur entreprise, comment tu fais justement pour justifier et dire bah non, en fait c'est pas du blabla, du bullshit, c'est ça sert et ça marche vraiment?
Je pense que chez Swile, c'est peut-être le cas le plus concret que j'ai à partager. J'ai utilisé, on va dire, trois petits trucs. En particulier, le premier, c'est quand je suis arrivée, j'ai passé un moment en visio, parce que bon, c'est en plus fin de premier confinement, enfin je sais plus exactement, mais on était encore en télétravail, donc j'ai passé une heure en visio avec, tu vois, une petite dizaine de personnes qu'il fallait que j'aie, on va dire, de mon côté, tu vois. Donc j'ai passé, voilà, cette petite heure au téléphone pour savoir, bah, déjà, quel était leur taf, tu vois. J'ai fait un peu de user research sur les gens qui bossaient finalement chez Swile, tu vois, quel était leur taf, quel était leur passé, les anciennes boîtes dans lesquelles ils ont été, s'ils avaient déjà collaboré avec des user researchers ou pas, si oui, ce que ça leur avait apporté et peut-être ce qu'ils auraient aimé avoir en plus, qu'est-ce qu'ils comprenaient de mon taf, qu'est-ce qu'ils pensaient que je pouvais leur apporter. Et tu vois, c'était des profils évidemment du produit, donc tu vois, du product designer, lead dev, mais aussi profil marketing, COO. Tu vois, j'avais besoin de me rapprocher vraiment des personnes avec qui j'allais bosser et vraiment celles à qui je pouvais apporter de la valeur. Donc ça m'a donné des premières bases, des premières pistes. Et ensuite, ce que j'ai fait chez Swile, c'est que j'ai organisé un meet-up interne assez vite, hein, 2-3 jours après être arrivé, en invitant toute la boîte, en disant voilà, je vous propose juste de vous expliquer un petit peu ce que c'est la user research, parce que c'est pas connu comme métier, donc c'est peut-être cool qu'on en parle là, au moins si vous avez des questions après, au moins vous savez à quoi je sers, quoi, tout simplement. Et vu que tu vois, en plus la boîte est entre Montpellier et Paris, c'était important, tu vois. Je pense que même les personnes du care, enfin du support, m'identifient, parce que c'est des personnes avec qui je serais amenée à travailler après. Donc voilà, bonjour. Tu vois, j'ai fait ce petit meet-up là juste pour dire un peu, bah voilà à quoi je peux vous servir, voilà ce que je fais, voilà ce que je fais pas, voilà, je suis pas data analyst, donc je suis pas product designer, donc moi je vous aide sur les problèmes, mais je vous aide sur les solutions, mais je conçois pas les solutions. Voilà, donc tu vois, ça a permis de dresser un peu un tableau. Et ça a permis à pas mal de personnes, finalement, de venir me parler après, etc. Troisième chose que j'ai fait, c'est que j'ai directement, pareil, quand je suis arrivée, mis en place un weekly research, donc toutes les semaines. Alors, j'ai envie de te dire qu'il y a un sujet dans le pipe ou pas, mais il y avait tout un sujet dans le pipe, donc toutes les semaines, il y avait la weekly research. J'avais mes, on va dire, 10 invités un peu classiques qui étaient là tout le temps. Et c'était ouvert à tous. Et du coup, je partageais l'agenda le lundi. Voilà, on va parler de ça. Ça, c'est terminé. Ça, c'est en cours. J'ai besoin de vos hypothèses ou de vos idées là-dessus. J'ai regardé des recordings sur tel moment du parcours. Ça peut être intéressant qu'on lance une research. Donc, je pingais 2-3 personnes pour qu'on en parle. Et ça permettait, tu vois, aussi à des personnes de venir, soit parce qu'elles étaient directement concernées, soit parce qu'elles voulaient juste des informations. Et donc, ça fait un peu effet boule de neige. Et au final, tu te dis, tu vois, dans les équipes, s'ils sentaient qu'il y avait un terrain où c'était pas hyper clair ou que ça pouvait être intéressant d'aller se pencher vers, d'aller poser des questions, de voir un petit peu comment récolter du feedback, eh ben, ils profitaient de ce moment qui était hyper régulier pour venir me poser la question, tu vois. Donc, ça a été un petit peu 3 moyens qui ont fait que j'ai réussi, je pense, à me faire identifier et à faire en sorte que tout le monde comprenne un petit peu le rôle, quoi.
C'est super intéressant. Je me demandais, tu vois, Swile, pour moi, c'est une entreprise qui est vachement au clair de tout ce qui se fait au niveau du product design. Ils ont eu Marie, que j'ai reçue ici au tout début quand ils étaient sur Launcher, qui a vraiment toute la méthodologie produit, de la recherche, etc. Et ce que je trouve assez intéressant, c'est qu'ils aient fait appel à quelqu'un d'extérieur pour faire de la recherche et qu'ils n'aient pas utilisé les ressources en interne, discuté avec des product designers qui fassent de la recherche, etc. Pourquoi eux ont fait appel à toi Mais on peut parler aussi de Hitch parce que ça m'étonne aussi, parce que j'en avais parlé. J'en avais parlé avec Noémie aussi, qui faisait beaucoup de recherches utilisateurs. Donc ça me surprend beaucoup, le prend pas mal, hein, mais qui fasse appel à un user researcher extérieur pour faire de la recherche sur des compétences qu'ils ont déjà en interne.
Ouais, non, mais c'est une bonne question. Et en plus, Swile et Hitch sont très différents. On va dire, et dans la construction de l'équipe produit et dans la manière de bosser autour du produit. Côté Swile, purement, simplement, problématique de temps. Voilà. Je veux dire, il y a pas, tu vois, ils sont, les product designers chez Swile sont juste sous l'eau. Et encore, c'est peu de le dire, mais en tout cas, ils travaillent comme des oufs. Ouais. Et je pense qu'ils avaient besoin d'être soulagés sur cette partie-là, simplement. Et je pense qu'aussi, dès le départ, ça a été assez, on va dire, il y a la partie delivery et il y a la partie discovery, tu vois. Et quand t'es à fond sur la delivery, à ce moment-là, et ben, c'est compliqué tout simplement de pouvoir prendre le temps de découvrir. Donc le support était là-dessus. Côté Hitch, là, les product designers et PM font de la research à fond. Ils le font. Mais il y a... Alors, tu vois, sur l'accompagnement que j'ai fait avec eux en mars dernier, il y avait besoin de justement sortir un peu la tête de l'eau et de se dire, OK, nous, on a chacun notre vision du moment du parcours, notre prisme sur le moment. Et ce serait bien qu'une personne externe, neutre, vienne rechallenger tout ça et nous donner une vision plus globale. Et tu vois, pour ces deux cas-là, et finalement, tu vois, Agicap, c'est la même chose. Agicap, donc moi, j'ai aidé l'équipe produit à monter en compétences en user research, tu vois, à se sentir juste plus à l'aise et à avoir tous, on va dire, un niveau de connaissance qui soit le même pour bien taffer ensemble et puis pour bien scaler par la suite. Et dans tous les cas, c'est juste que ce soit dans je fais pour vous ou je vous accompagne à faire mieux, il y a quand même cette vision de on va faire appel à quelqu'un qui n'a pas d'affect pour le produit, qui n'a pas d'affect pour les gens, enfin si, en plus je les adore, mais tu vois ce que je veux dire, enfin qui n'a pas d'affect pour les gens qui bossent sur le produit, enfin tu vois, j'ai pas peur de dire dire des insights à chaque fois, c'est pas ma vision, tu vois, je suis pas un énième avis qui vient autour de la table parce que moi en soi, enfin tu vois, c'est pas mon business, mais je suis une porte vers les utilisateurs, donc de fait je suis neutre, en tout cas le plus neutre possible, et je pense que ça fait toujours du bien aux équipes d'avoir quelqu'un, que ce soit pour un projet plutôt stratégique, soit qui va prendre plus de temps, et donc forcément tu vas dérouler ce projet en parallèle des sprints produits, et tu peux juste pas tout faire en même temps, et ouais, donc je pense que c'est vraiment problématique de temps, ou problématique de il faut quelqu'un de neutre qui vienne nous parler de tout ça, quoi.
Un nouveau regard et une
boucle. Ouais, exactement. Ouais, ouais.
Et comment ça se passe justement cette relation avec les product designers et les product managers qui eux sont habitués à faire de la discovery ou à travailler vraiment à faire beaucoup de delivery? Comment toi tu t'insères dans leur process et comment tu travailles avec eux?
Et ben là-dessus, tu vois, alors je commence par Swile, mais je vais réélargir ensuite. Chez Swile, il n'y a pas de PM. Donc déjà, tu as cette strate, on va dire, dans l'équipe produit qui saute. Et donc, la manière tout simplement de bosser avec donc product design et dev, du coup, chez Swile, en tout cas, ça me permettait d'avoir, enfin, en tout cas, de dépasser vraiment du cadre user research. Tu vois, sur une manière de bosser assez classique, c'est beaucoup main dans la main avec les product designers. Et ensuite main dans la main avec le PM, mais au final tu t'es pas en tant que user researcher beaucoup t'as pas beaucoup d'interaction avec la partie avec les devs, tu vois. Et chez Swile, ce qui était hyper cool, c'est que ça me permettait finalement de pouvoir bosser avec les product designers, notamment, c'est tout bête à dire, hein, mais pour la compréhension des flows, etc. Tu vois, que ce soit sur un produit déjà existant, mature, enfin sur un site développé, etc. Enfin, le product designer a beaucoup plus d'expérience et de connaissance des flows que moi, donc c'était juste ouf de pouvoir bosser avec eux. Et par la suite, mes insights, tu vois, je faisais pas simplement une presse En disant voilà, ça c'est bien, ça c'est pas bien, enfin je grossis le trait évidemment, mais je faisais pas simplement cette presse là d'une part je présentais les résultats et je voulais absolument toujours que les lead dev concernés soient présents à ce moment là de...
Pourquoi?
Parce que c'est hyper, en plus n'ayant pas de PM, je pense que c'est trop important de pouvoir leur dire voilà la vision utilisateur, ça c'est pas compris, ça a l'air crucial. Du coup, on peut déjà commencer à arbitrer un petit peu, ça peut commencer à nourrir soit les roadmaps à venir, soit à commencer à mettre dans la roadmap actuelle, tu vois, des petites choses qui peuvent passer plutôt quick. Donc c'était trop important qu'ils soient là, et en support à ça ensuite, moi je faisais une backlog user research to dev, et donc je mettais en fait sur nos chaînes, hein, et je mettais tous les insights priorisés du regard utilisateur, genre ça c'est hyper painful, ça c'est on va dire c'est cosmétique, ça gêne la navigation mais c'est pas prio one, tu vois, et avec le max d'explications possibles, des solutions qu'on avait identifiées avec les product designers. Et ça permettait du coup ensuite au lead dev de redistribuer au dev et de prendre ça quand ils avaient un petit peu de temps, tu vois. Donc, et moi après, pendant mes weekly, j'étais là, bon les gars, ça a avancé là-dessus, on en est où? Vous rappeliez, ça c'était prio one du coup. Donc tu vois, je reprenais un peu le rôle de PM sur ma user research en tout cas. Donc, hyper intéressant pour moi, tu vois, d'avoir pu dépasser un petit peu là-dessus. Et sinon, ouais, dans la manière de bosser... En fait, ça dépend beaucoup, tu vois, de ce que tu vas venir nourrir comme réflexion. Si, mais encore une fois, pareil, hein, c'est mon prisme à moi qui est quand même un mini prisme par rapport à plein de choses.
C'est pour avoir le tien.
Mais tu vois, j'ai beaucoup, enfin, je bosse beaucoup aussi avec les équipes marketing. Tu vois, pour moi, la user research, ça appuie pas uniquement l'équipe produit. C'est ce qui est le plus clair à voir, mais c'est pas tout. Et tu vois, quand t'as une idée ou que tu veux lancer une nouvelle, je sais pas, un nouveau produit, que tu veux savoir justement comment est-ce que le marché est réceptif à ça ou pas, quels sont les vrais problèmes, etc. Là, je bosse pas forcément directement avec le product designer tout de suite, mais bien plus avec, tu vois, avec l'équipe qui va travailler autour de ce nouveau produit. Et dans ces cas-là, ça peut être, ça peut être du market, par exemple, pour faire vraiment de la discovery avant de lancer un POC ou une V0, tu vois, et essayer de comprendre un petit peu l'idée principale. On pense que c'est ça, et on régule un petit peu. Ok, du coup, on va se sentir un petit peu plus prêt à faire ça, et du coup, ce sera à ça que va ressembler notre MVP, tu vois. C'est dommage que les gens voient pas les gestes que je te fais en parallèle.
Dans tous les sens,
exactement. Donc voilà, donc en gros, j'ai pas de manière prédéfinie de bosser avec un product designer ou un PM parce que j'ai jamais été intégrée, tu vois, j'ai jamais bossé chez l'annonceur ou dans une boîte en tant que user researcher, tu vois, enfin, j'ai jamais bossé chez un Doctolib par exemple avec 3, 4, 5 autres user researchers avec X feature team, etc., etc. Donc moi, j'ai pas de moyen de bosser prédéfini, je m'adapte de ouf à chaque fois à mes clients et à leur manière de voir les choses, et je pense que c'est le plus important parce que je veux pas être une compétence qui soit painful, justement, tu vois, qui prenne du temps, qui ralentisse. Donc moi
ton but c'est de justement accélérer les process de tous les autres.
Ouais, c'est ça, exactement. Donc du coup, moi, j'essaie juste de faire le caméléon, tu vois, à chaque fois que j'arrive quelque part, pour m'insérer au mieux dans le process, sans faire de vagues qui font peur et qui donnent l'impression que tout est ralenti, etc. quoi.
Tout à l'heure, t'en as un peu parlé, mais j'ai l'impression que tu fais pas vraiment de, on va dire, tu formes pas vraiment les gens qui sont autour de toi à la user research, sauf peut-être pour Agicap, mais j'ai cru comprendre que c'était vraiment une mission de formation. Mais dis-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression que quand tu vas chez un Swile ou un Itch, toi, tu vas arriver, tu vas présenter tes méthodes, tu vas rencontrer les gens, tu vas faire ce que tu disais, ton weekly research pour présenter tout ça. En fait, j'ai l'impression qu'en faisant ce travail-là, tu infuses une espèce de culture de la recherche. Est-ce que je me trompe ?
Non, tu te trompes pas. Tu te trompes pas. Et ça, je pense que tu me poses la question à moi, et je pense que si tu poses la question à n'importe quel autre user researcher en France. Je pense qu'on doit tous beaucoup le faire parce qu'on n'est pas hyper mature sur le sujet. Et du coup, moi, j'ai aucun problème avec le fait que la user research soit pas intégrée aujourd'hui totalement et au mieux à la conception produit parce qu'on y va petit à petit, quoi. C'est tout. Mm-hmm. Alors, je veux dire, c'est comme ça. Et donc, de fait, il y a forcément une part de notre métier qui est, voilà, j'aime pas forcément ce mot, mais évangéliser, essayer d'apporter une culture user à la culture produit. Et donc, ouais, effectivement, tu vois, ça c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur parce que c'est important. Je pense avoir aussi quitté l'agence pour ça parce que en agence, beaucoup, bah, on vient vers toi, on dit voilà, on a un problème, va chercher des insights là-dessus. En tant qu'user researcher, tu vas chercher, tu délivres tes insights et après tu ne sais plus rien, tu vois, tu sais pas si ça a été utilisé, tu sais pas si c'est bien ou pas, tu sais pas quelles sont les décisions produits qui sont prises par rapport à ça. Et du coup, moi je ne veux pas maintenant faire quelque chose pour mon client et au final dire OK voilà, la balle est dans votre camp, ciao tout le monde. Donc j'ai besoin de faire en sorte que les équipes derrière comprennent vraiment la valeur et aient envie d'utiliser les résultats, tu vois.
Ça me rappelle beaucoup ce que disait Solène de Gateron dans son épisode où elle aussi, elle est partie de l'agence. Bon, alors elle est allée dans une entreprise, mais où tu vois, elle aussi, elle sentait que son travail, une fois qu'il était rendu, bah, tu sais pas trop ce qui se passe. Et en fait, c'est l'après qui est parfois le plus intéressant, savoir ce qui va se passer, comment c'est utilisé, etc.
Exactement.
C'est chouette. Et du coup, toi.
Et je pense que je peux rajouter. Je suis désolée, je te coupe, mais je pense à autre chose quand tu me disais ça. Par rapport à plus le volet formation, en fait, voilà, formation. J'aime pas trop ce mot parce que je trouve ça très théorique aussi. Mais tu vois.
Comment tu l'appellerais?
Bah, monter en compétences, je sais pas, mettez-vous tous à l'aise, un truc comme ça. mais tu vois, c'est juste de se dire que, enfin. À JCAP, l'idée, je trouve, est hyper cool. Luc, hein, que tu as vu la semaine dernière, est venu vers moi en me disant, écoute, on a plein de très bons profils, product designer, PM, chez AGCAP, et chacun, et c'est normal, a un passé différent, un vécu différent, et un stade différent dans la boîte par rapport à sa future, etc., etc. On aimerait bien avoir juste une mise à niveau, une mise en commun de la connaissance, et qu'on soit tous chauds de pouvoir adopter des process, c'est un grand mot, mais tu vois, une manière de penser, pourquoi pas un outil demain qui nous permette d'aller plus loin, de pouvoir accueillir des nouvelles recrues et de savoir dans où est-ce qu'on se positionne par rapport à ça, etc., etc. Et donc moi, je les ai accompagnés exclusivement là-dessus. Donc tu vois, j'ai pas fait pour eux de la mission, mais j'ai juste essayé de leur communiquer au maximum tout ce que moi je connaissais et de manière pas théorique, parce que bah, comme je te l'ai dit, j'ai pas de cursus académique de fou. Donc puis pour la théorie, il y a des super livres, etc. Donc moi, c'était plus en pratique là sur mes X années de user researcher. Voilà ce que je peux vous communiquer, ce qui est bien que j'ai essayé, ce qui est pas bien et que j'ai essayé. Donc voilà un peu les do et don'ts. Mais tu vois, il se passe quand même quelque chose et Itch notamment, on va rebosser ensemble très bientôt, plus sur un sujet monter en compétences encore une fois, tu vois, quelle direction on veut prendre pour être plus user-centric, enfin en tout cas pour supporter vraiment l'ADN user-centric de Itch. Et du coup là, c'est pas de la mission, c'est vraiment encore une fois comment tu aides les gens qui travaillent dans l'entreprise à mieux communiquer les retours utilisateurs, à mieux les utiliser, à avoir envie de les utiliser, à avoir envie de mieux creuser et plus souvent. Tu vois, donc il se passe quand même des choses et je pense qu'on le remarque de plus en plus dans les entreprises et voilà, c'était le point que je voulais rajouter.
C'est tombé bien parce que c'était la question que je voulais te poser et du coup ça amène d'autres points. Ce point de la formation, enfin de la mise en compétence, j'ai envie d'appeler ça la recherche à la cool. Justement, tu y vas, c'est pas du théorique, c'est de la pratique. Pour les gens qui nous écoutent, s'il y en a qui veulent monter en compétences sur la recherche, qu'est-ce que tu leur donnerais justement comme conseil pour ça?
Et ben en fait, pour moi, mon conseil, c'est entraînez-vous. Voilà, c'est que.
Tu fais ça.
Bah, tu vois, il y a eu un moment assez chouette pendant la formation à JCAP, notamment. Tu vois, c'était sur le volet discovery, interview utilisateur et de fait interview téléphonique parce que Covid, contexte B2B, etc., etc. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a, j'ai, tu vois, fait mes quelques slides sur comment mener une interview, qu'est-ce que, voilà, comment tu mets quelqu'un à l'aise pour débuter ton call, comment tu structures ton échange, quel type de questions tu peux poser, comment tu les poses, comment tu poses pas tes questions pour pas les biaiser, etc. Et ce qu'on a fait à la session suivante, c'est qu'on a écouté une interview AirCall qui avait été faite avant la formation. Donc une personne, tu vois, une personne de l'équipe produit avait fait cette interview et du coup on était tous là à prendre des notes. Je leur ai dit alors vous en avez pensé quoi, c'est quoi les axes d'amélioration, qu'est-ce qui était bien, qu'est-ce qu'il aurait dû changer, où est-ce qu'il aurait pu creuser, etc., etc. Et après on a mis cette même personne dans une salle et il a refait une interview, tu vois, qu'on a écouté en live. Et donc là pareil, même exercice, on prenait nos petites notes, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui pourrait être amélioré, etc., etc. Et juste là le gap était fou, mais vraiment fou entre les deux. Et tu vois, quand je dis entraînement, bah c'est ça. C'est, je pense qu'il y a, ces choses très théoriques dans le fait de mener une discussion avec un individu qui est un humain, qui n'est pas pareil que tous les autres êtres humains de la Terre et qui ne va pas te répondre de la manière que tu vas attendre. Comment tu fais pour essayer de puiser au max dans cette discussion, où est-ce que tu t'arrêtes, où est-ce que tu dis... voilà. Enfin, donc, tu vois, il y a ces petites notions de base à avoir, mais après c'est clairement de la pratique et faut oser le faire. Et tu vois, je sais pas si, enfin, je sais pas, moi quand j'étais petite, enfin plus jeune, téléphoner, enfin c'était l'enfer, tu vois. Je m'entraînais à répéter, tu sais, je sais pas, ton premier job, tu vois, où tu dois appeler, je sais pas, un prestataire, quelqu'un pour la première fois, tu répètes, t'es pas bien, enfin tu bégayes. Et ben voilà, moi je suis passée de ça à je passe 20 calls en 2 jours. J'exagère, en 4. Et donc, forcément, c'est de la pratique. Donc, voilà, moi, je pense qu'il faut s'entraîner et le faire au maximum et le faire à deux, tu vois, et se dire qu'on peut accepter du feedback, peut-être savoir donner du feedback aussi à ses collègues pour dire, bah, écoute, peut-être que là, tu aurais pu faire différemment, voilà comment je l'aurais fait, etc., etc. Je pense que c'est bien. Et puis, s'organiser peut-être même des sessions de critique de temps en temps, mais critique positive, encore une fois, de dire, ah bah voilà, j'ai fait des interviews sur tel sujet parce que je voulais savoir mieux comment, je sais pas, telle chose s'est passée sur le parcours. Et peut-être expliquer un petit peu comment on a fait et peut-être que les autres personnes de l'équipe peuvent venir challenger ça. Enfin, je pars du principe que les gens ont eu des vies antérieures, ont déjà travaillé avec des user researchers ou ont déjà fait de la recherche, et il faut grave partager là-dessus et ouais, se challenger et se lancer, en fait. Voilà. Mais bon, encore une fois, attention, hein, je ne dis pas que le métier de user researcher est un métier que tout le monde peut faire, mais je pense que tout le monde peut faire tout de même de la user research, peut prendre son téléphone et parler à un utilisateur, et pour ça, il y a des clés pour le faire, quoi. Voilà.
Mais ça amène pas mal de questions. Qui sont que toi, quand tu fais de la recherche utilisateur, est-ce que tu te mets en équipe avec quelqu'un qui va aussi t'aider à débiaiser tes questions, qui va challenger ce que tu fais, qui va écouter ce que tu fais, ou comme tu le disais tout à l'heure, c'est un problème de temps et comme tu es là pour les aider, tu fais tout toute seule dans ton coin?
Eh bien, j'aimerais te dire que dans un monde idéal, ce serait génial que j'ai tout le temps quelqu'un avec moi, qu'on soit deux et qu'on puisse effectivement se challenger, réfléchir, tu vois, aussi à se dire, moi j'ai compris ce point de telle manière, est-ce que tu l'interprètes comme moi ou pas? Et tu vois, ce biais d'interprétation, il est énorme. Donc effectivement, bosser seul, c'est moins stable, moins rassurant, et ça, c'est juste humain. C'est dommage, mais c'est comme ça. Donc, j'aimerais beaucoup bosser à deux avec quelqu'un. Je parle d'un autre user researcher, tu vois, par exemple, ou product designer, tout le temps le même, tout ça, tout ça. Mais malheureusement, comme tu le dis, pour des contraintes de temps, c'est pas toujours évident. Tu vois, chez Swile ou Itch, moi, ce que j'incitais à faire au max, c'était si j'ai des interviews, vous avez les horaires, vous me rejoignez, je suis dans telle salle ou ça se passe sur tel meet et venez écouter. Voilà, venez juste écouter, on débrief après, etc. Et ça aide tellement. En fait, ça aide déjà directement la personne qui se joint au call, et ça aide aussi beaucoup derrière et moi dans l'analyse aussi à comprendre qu'est-ce qui est important pour la personne pour qui je fais ça. Qu'est-ce qui résonne le plus. Et tu vois, donc il y a deux choses comme ça. Et puis ensuite, product design, notamment chez Itch, tu vois, il y a Polo notamment avec qui je faisais pas mal d'interviews, et donc il venait aussi, mais plus en écoute active, pour que derrière on puisse réfléchir et que ça vienne le nourrir en fait directement. Mais sinon, dans le quotidien, j'ai envie de te dire que je gère tout. Tu vois, chez Swile, je recrutais mes utilisateurs, je faisais mes NDA avec le légal pour pouvoir les contacter sans souci. Je passais mes entretiens, je faisais ma prise de notes en live toute seule, analyse, récit, voilà. Donc, tu vois, c'était, je prenais tout en charge parce que je pouvais pas les embêter en dire, viens me prendre des notes pendant que je fais ça, pas le temps, quoi.
Ouais, je comprends. Ouais, je te pose la question parce que moi, c'est aussi quelque chose que j'ai remarqué dans mon quotidien de product designer, c'est que quand tu le fais avec quelqu'un d'autre, déjà, tu limites tes biais. Enfin, ouais. Moi, je veux le voir, je suis toujours avec un product manager ou une product designer avec moi, ou même on était généralement trois, enfin, tu vois. C'est vachement bien pour débiaiser, pouvoir challenger, se rendre compte ce qui va, ce qui va pas. Mais...
Ouais.
Et puis, ça permet aussi de faire, comme tu le disais, je sais que t'aimes pas ce mot-là, mais de l'évangélisation et de permettre de montrer aux gens ce que tu, comment tu peux en fait retirer de la matière dans tes entretiens. T'as parlé de recruter tes utilisateurs. Et je pense qu'avant de parler d'utilisateurs, on pourrait parler d'une autre notion qui est les personas. Mmh. T'en as vaguement parlé au tout début.
Ouais.
Est-ce que tu pourrais nous expliquer et expliquer à ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un persona ?
Un persona UX, parce qu'il y a une différence déjà entre persona marketing et persona UX. Donc un persona UX, c'est une représentation d'une population d'utilisateurs cibles qui va venir cristalliser des comportements à un instant T. Voilà. Donc c'est-à-dire que on va avoir un persona, pas forcément, je grossis les traits, hein, mais le vieux, le jeune, la fille du nord, le mec du sud. Voilà. Bref, c'est pas sur des critères sociodémographiques qu'on va venir les chercher, mais vraiment sur des comportements par rapport à notre produit, à notre service ou dans la vie en général. Donc c'est peut-être je sais pas, une personne qui va être, je sais pas, je prends les rap, enfin par exemple sur Itch, on peut avoir le fêtard qui prend Itch pour rentrer de soirée à 5h du mat, le fêtard qui prend Itch pour rentrer de soirée à 5h du mat, il a un comportement particulier, il a des besoins particuliers, il paye d'une manière particulière, potentiellement ils sont 2-3 dans le Itch et du coup ils vont payer en cash et se partager la note, versus une personne qui va être je sais pas, aide à domicile. Donc l'aide à domicile qui vit en banlieue, et elle va pas avoir les mêmes comportements sur le produit que le fêtard. Elle va avoir besoin de prendre Itch à des heures bien précises, avec une notion d'être à l'heure qui est hyper importante, peut-être beaucoup plus que le fêtard. Donc là, c'est vraiment lié à des comportements. Donc c'est en gros des petites fiches, c'est des outils qui vont venir cristalliser des comportements d'une population cible.
Et justement, comment tu les construis, ces personnages ?
Eh bien, il y a plusieurs manières de faire. La manière la plus stable pour moi, c'est de faire des interviews, beaucoup d'interviews, de se baser un peu, de prendre, on va dire, construire un fichier client, si on est sur des clients et pas sur des prospects, hein, construire un fichier client avec les critères qui représentent le mieux, selon nous, en réfléchissant du coup beaucoup avec le client, qui représentent le mieux toutes les différentes populations d'utilisateurs qu'on peut avoir, et d'en appeler pas mal, c'est-à-dire peut-être entre 20, 30, 40, sur la base d'un même script d'entretien qui va venir vraiment dérouler toute l'expérience de bout en bout du moment où tu as, enfin toute l'expérience qui nous intéresse, mais par exemple, si je reprends Itch, du moment où tu as réfléchi à prendre un VTC jusqu'au moment où tu es parti de la voiture et que tu as oublié ton sac, quoi. Voilà. Et prendre vraiment tout ça avec toutes ces personnes qui viennent représenter tous nos différents type d'utilisateur, du coup, à ce moment-là. Et ensuite, il y a un exercice qui n'est pas très simple à faire, c'est-à-dire d'essayer de trouver des variables. Donc, tu vas te dire, dans les 20, 30, 40 entretiens que j'ai fait, pour moi, il y a 5-6 variables qui sont déterminantes. Je prends la problématique du temps. Une variable, ça pourrait être j'ai toute la journée devant moi versus je dois absolument arriver à l'heure. Donc ça va être une variable, et l'idée, ça va être d'aller positionner toutes les personnes que tu as interrogées sur les différentes variables que tu as identifiées, Et là, il se passe assez, enfin, quelque chose de normalement assez magique. Tu te rends compte que tu as des groupes qui se créent. Et là, tu te dis, waouh, ces groupes, ça peut me faire des personas. Et voilà. Donc là, c'est la méthode vraiment research, où tu vas construire tes personas en ayant parlé avec de vraies personnes qui rentrent dans tes utilisateurs cibles. Très important. Et seconde manière de faire, je pense que tu connais bien, c'est des proto-personas. Donc là, tu vas pas forcément aller parler avec avec des utilisateurs. Tu vas utiliser la connaissance que les équipes ont des users. Donc tu vas co-construire des profils types, enfin des personas, mais avec des personnes de l'équipe, que ce soit de l'équipe produit, par exemple du CSM, du care, des sales, enfin toute personne qui peut avoir quelque chose à te raconter et qui connaît et qui a des interactions avec le client. Et tu vas venir construire ce profil avec eux. Forcément, c'est plus biaisé, c'est moins vrai, parce que t'as toute la perception là interne, etc., qui est revenue la couche, on va dire, business justement qui est par-dessus ça. Mais c'est déjà un outil, je sais pas ce que t'en penses, mais tu vois, c'est déjà un outil qui peut t'aider à avoir une conception qui soit plus centrée autour de ton utilisateur, à garder en tête pour qui tu fais les choses. Et tu vois, notamment chez Swile, pour des problématiques de temps, on a construit des proto-personas pour beaucoup de cibles différentes. Et l'idée, c'était qu'ensuite, quand j'allais faire des interviews avec des personnes de cette cible-là, bah moi, je venais nourrir, challenger, revoir les proto-personas avec de la vraie donnée user, tu vois.
Ah non, je suis d'accord avec toi. Ça te permet au moins d'avoir une base et de savoir à peu près où commencer à fouiller. Et à partir de là, je pense, tu vois, c'est ce que tu disais avec les proto-personas, t'as pas mal de couches business et ça te permet de rajouter de la couche humaine par-dessus. Ouais. Et plus que cette personne, elle a l'habitude de dépenser son argent de telle façon, t'es là, tu fais, ah bah non, il y a toute la logique psychologique qui est derrière que tu peux rajouter dessus.
Exactement. Et ce qui est intéressant avec les proto-personas aussi, c'est qu'au final, vu... Enfin, tout le monde bosse ensemble dans une même salle, c'est hyper chouette à faire, et ça permet à tout le monde de se dire « Ah purée, mais là, on sait pas. Alors ça, franchement... » Et tu vois, quand ils commencent à tous être un peu pas d'accord sur « Ah non, mais il est plus comme ci, ah non, mais il fait plus ça. » Et tu te dis « Ok, vous êtes pas d'accord. Est-ce qu'on sait ou pas, du coup, ce qui se passe ? Je pensais qu'on savait. On sait pas ? Bon, ben, on va aller chercher. » Enfin, tu vois, donc ça permet à tout le monde de se mettre d'accord sur le fait qu'on sait pas. Donc, c'est aussi intéressant là-dessus.
C'est un bon moyen de se dire qu'on va faire de la recherche.
Exactement.
Quand tu as toutes ces conversations et tout ça, est-ce que tu essaies quand même de nourrir le débat aussi avec de la data ? Tout à l'heure, tu disais que tu n'étais pas data analyst, ouais. Mais est-ce que tu vas quand même chercher les data analysts pour te nourrir de ça et avoir de la data qui va te permettre d'avoir plus d'informations sur tes utilisateurs ?
Oui. Oui. Ouais, tu vois, quand je te dis je suis pas data analyst, mais c'est simplement parce qu'il y a des personnes extrêmement compétentes pour le faire et qui le font très très bien. Tu vois, je te disais que je déteste manier les tableaux Excel, c'est toujours vrai aujourd'hui, hein, malheureusement. Donc oui, je vais beaucoup solliciter les data analysts, beaucoup savoir qui gravite autour de la data, quel type de data on a, à quel moment, enfin est-ce que c'est des data, tu vois, produits, comportement ou pas, est-ce qu'on a des outils qui sont plugués justement ou pas, qu'est-ce qu'on peut aller creuser, et tu vois pareil, enfin chez Swile, pour un sujet en particulier, on a bossé main dans la main pendant quelques semaines avec un data analyst, et ça a été juste ouf, parce que en creusant quanti quali en quasi parallèle, ça se répondait tellement et ça m'a tellement permis moi de pouvoir aller chercher des choses de manière beaucoup plus pertinentes, sur des cibles aussi beaucoup plus pertinentes. Et tu vois, pour moi, le tableau, il est complet à partir du moment où tu as ce volet quanti et ce volet quali. L'un va pas sans l'autre. Après, les organisations produits, les organisations équipes. Et tu vois, surtout quand tu es dans de la startup, scale-up, potentiellement, tu vois, tu as des boîtes qui aujourd'hui sont 150. Il y a deux ans, ils étaient 7. Donc, tu sais pas si tu as une équipe, tu vois, tu sais pas si tu as encore des data analysts. Il y a pas de user researcher. Donc, qui va arriver avant l'autre? Tu vois, enfin, tout n'est pas parfait et c'est normal. Mais c'est hyper cool quand tu commences à avoir toutes ces compétences qui sont dans la boîte. Et avant ça, de savoir un petit peu, dans tous les cas, il y a bien quelqu'un qui a la main sur de la data, et qu'est-ce qui peut être utile ou pas, tu vois. Donc, ouais, évidemment, c'est trop bien de pouvoir capitaliser sur les deux. Faire que du quanti, ça marche pas. Enfin, je veux dire, tu vas comprendre plein de choses. Enfin, tu vas identifier plein de choses, mais tu vas jamais comprendre pourquoi ça marche, pourquoi ça marche pas, pourquoi ça churn, pourquoi il y a d'adhésion. Enfin, et si tu fais que du quali, tu vas jamais être certain que ce que tu as creusé et qui te semble être très problématique est réellement très problématique. Tu vois. Donc, les deux vont largement ensemble.
J'ai souvent l'impression que le quanti te permet de te dire combien et quoi, et le quali te permet de te dire pourquoi.
Exactement, tout à fait. Tout à fait.
Pour revenir sur les personas, une fois que tu as établi justement tous ces profils, etc., ça te permet, j'imagine, de pouvoir recruter des utilisateurs pour faire des tests ou de la recherche. Comment tu fais une fois que justement que tu as tes personas pour recruter tes utilisateurs, parce que tu dois avoir, je sais pas, 5-6 personas différents. Comment tu sais vers lequel tu dois aller, pourquoi tu dois aller vers celui-ci ou celle-là, comment tu les recrutes, etc.
Là-dessus, je pense que le plus simple à partir de ça, tu vois, l'idée, c'est que tu as mis en avant des variables de comportement. Déjà, se poser la question, est-ce que ces variables-là, on les a ou pas, tu vois, à dispo dans notre connaissance comportement produit, que ce soit tu vois par des outils justement ou sur nos databases, etc. Donc déjà se poser la question, est-ce qu'on peut commencer à filtrer nos utilisateurs par rapport à ces comportements là ou pas. Et sinon, faut passer par un outil assez simple. Je fais des guillemets avec mes doigts. assez simple, mais enfin un peu chronophage, c'est vrai. C'est-à-dire que tu as tes 4 personas, voilà. Sylvie, Jacques, Pierre et Luc, hein, voilà. Et tu vas envoyer à une population d'utilisateurs cibles, donc je sais pas, un fichier de 500 clients pour commencer. Tu vas leur proposer de participer à des user tests. Ils vont te dire oui, et ceux qui te disent oui, tu leur envoie un screening de recrutement, on appelle ça un questionnaire de recrutement de quelques questions, où là, tu vas vraiment pouvoir, donc évidemment, c'est du déclaratif, et donc évidemment, il peut y en avoir quelques-uns qui vont te mentir ou pas rentrer dans la cible en pensant l'être, hein, et c'est sûr, on reste des humains, mais c'est quelques questions que tu vas pouvoir poser en disant, à quelle fréquence vous utilisez le produit, si c'est quelque chose qui peut être intéressant, pertinent et différenciant pour vous, à quel moment de la journée vous l'utilisez, enfin, tout dépend par exemple, tout dépend des personas, mais c'est ces quelques questions qui vont permettre finalement de filtrer les utilisateurs à qui tu veux parler pour tes tests, tes interviews, etc. Donc, il y a une étape avant de passer au coup de fil, on va dire, mais ça permet de les filtrer par rapport à tes comportements.
Donc, toi, en fait, ce que tu fais, c'est que tu contactes, on va dire, sur une cible étendue de clients ou de prospects, tu les contactes, tu leur envoies un questionnaire et en fonction de ces réponses, tu vas les choisir.
Ouais, c'est ça.
Ok, c'est intéressant parce que moi, j'ai toujours pris l'habitude de fonctionner à l'envers, qui est de se dire, je vais regarder dans mes bases de données, je vais d'abord faire un tri et je vais seulement contacter ces personnes-là ensuite. Ce qui fait que j'ai une population beaucoup plus restreinte dès le départ, mais je sais que c'est la bonne.
Bah ouais, mais ah oui, alors après, tout dépend de ce que tu cherches, enfin de qui tu cherches à interviewer, avec qui tu cherches à parler, tu vois. Si tu as des comportements spécifiques que tu aimerais trouver, tu vois, je prends un exemple tout bête chez Swile, enfin Launcher à l'époque, on avait fait une grosse discovery sur la feature de commande groupée et on voulait parler à des personnes qui avaient arrêté d'utiliser la feature. Comment tu fais pour savoir que dans les personnes que tu as dans ton fichier, est-ce que tous ceux qui n'ont pas utilisé le produit, enfin la feature depuis 3 mois, sont vraiment des personnes qui ont eu une expérience déceptive? Ou est-ce que c'est des personnes qui n'ont pas perdu leur carte Swile et qui, de fait, n'utilisent pas? Tu vois, je dis n'importe quoi. Et si tu shootes, si tu estimes que toute personne qui n'a pas utilisé depuis 3 mois sont vraiment des gens déçus et ils ont churn, tu vas peut-être interviewer des personnes qui étaient juste parties en road trip pendant 3 mois et qui n'ont pas utilisé le produit, tu vois. Donc, c'est là où tes questions de comportement, elles viennent jouer un rôle, parce que tu vas savoir, enfin, tu vas pouvoir poser la question sur ton screening, pourquoi vous n'avez pas utilisé, parce que j'ai eu, ma dernière expérience était déceptive, parce que j'ai trouvé mieux ailleurs, parce que je suis partie en vacances, parce que j'y ai pas pensé.
Je suis confinée depuis 3 mois et donc du coup, je peux pas
le faire. Exactement. Tu vois.
Donc, non, ok. Ouais, je trouve ça hyper intéressant de le prendre comme ça. J'y avais jamais pensé. C'est
pas obligatoire sur tous les sujets, mais tu vois, si t'as besoin de te dire, en fait, tu vois, c'est le temps que tu vas prendre à choper des gens en passant par un questionnaire de screening. Tu vois, ça te fait une étape supplémentaire, donc c'est chiant, hein, toute étape supplémentaire est chiante. Mais derrière, ça va t'assurer que les 6 personnes à qui tu vas parler, 8, 10, 20, elles sont quand même normalement assez proches, ouais, très qualifiées de ce que tu cherches. Alors que si tu fais pas ça, peut-être que dans tes 10 que tu voulais entendre qui ont churn et qui sont déçus, en fait, tu vas avoir 8 personnes qui avaient Covid et qui n'ont pas bougé de chez elles, tu vois. Voilà. Mmh. Donc, Et donc, tu vas devoir interroger plus de monde au final pour arriver à tes cibles. Donc, voilà, l'un dans l'autre, ça peut aider.
On en revient à cette question de tu as le combien et le quoi, et après, tu dois aller chercher un peu le pourquoi avant d'aller plus loin.
C'est ça, tout à fait.
J'ai encore quelques questions sur un peu tout ce travail de recherche. Il y a deux choses qui m'intéressent. C'est que dans le travail de user researcher, tu as quand même deux facettes qui sont, on va dire, le test utilisateur et la recherche exploratoire. On va commencer par la recherche exploratoire, si tu veux bien, comme c'est la phase en amont. Comment tu t'y prends pour faire de la recherche exploratoire, dans le sens où, généralement, ça se joue sur des thèmes plutôt vastes? Comme tu le disais tout à l'heure, par exemple, c'est on va créer un produit, qu'est-ce qu'on va mettre dedans, tu vois, c'est des sujets plutôt vagues. Comment tu t'y prends pour essayer de partir du bon pied et pas que ça parte dans tous les sens?
Ouais, bah ça c'est un très bon point, parce que justement tout le monde pense que c'est des sujets, ça peut être des sujets vagues, comme ça peut ne pas l'être du tout. Ça peut être des sujets vagues, mais qui dit sujet vague ne veut pas dire y aller en mode « Allez, on pose toutes les questions, on y va, on veut tout savoir », tu vois. Le plus important, c'est de pas y aller trop vite. C'est-à-dire de pas se dire « Ok, on va lancer une nouvelle feature, ok, on va lancer un nouveau produit, go, on va parler à des utilisateurs et on va voir si ça leur plaît ou pas ». Non, ne faites pas ça. Posez-vous avec l'équipe. Posez vos hypothèses, posez vos objectifs déjà. Là, vous allez avoir une demi-heure, une heure avec un utilisateur cible qui peut être intéressé par ce produit, cette feature. Qu'est-ce qu'on veut savoir en priorité? Qu'est-ce qu'on veut connaître? Il y a forcément des sujets qui sont plus importants que d'autres. Il y a des choses qui vont être du petit plus, si on le sait. Il y a des choses, c'est crucial. Là, notre produit, on veut le sortir dans 4 mois. Qu'est-ce qu'on veut savoir? Voilà. Qu'est-ce qu'on a besoin de prioriser? Et donc ça, c'est hyper important déjà de se dire qu'est-ce que je veux savoir en priorité, qu'est-ce que je veux savoir en secondaire. Ensuite, on a forcément une petite idée de la chose. On a forcément des hypothèses. On a forcément des intuitions. On les pose. À moins que le CEO habite, je sais pas, à Singapour et qu'il soit jamais dispo et qu'il n'ait pas d'ordinateur, personne n'a pas d'hypothèse ou d'intuition ou de supposition sur ce qui devrait marcher ou pas. On pose tout ça. Et l'idée, c'est que justement, les interviews viennent valider ou invalider ces hypothèses, viennent nourrir la réflexion. Donc, on pose tout ça et ensuite, on va se dire, ok. Ça, c'est nos hypothèses. Pour répondre à ces hypothèses, je pense qu'il faut qu'on parle à tel type d'utilisateur. On va les chercher, on fait des interviews et ensuite on vient dire, ok, par rapport à tout ça, on peut apprendre que on avait ça en idée, on n'est pas trop loin, faut qu'on capitalise là-dessus. En vue des besoins, en vue des problèmes qu'ils rencontrent aujourd'hui, ça peut être vraiment une fonctionnalité à haute valeur pour eux. Par contre, on pensait que ça pouvait être ouf. Finalement, il n'y a pas vraiment de problème là-dessus. Voilà. Mais en tout cas, mon conseil, ce serait prioriser déjà avec les personnes de l'équipe qu'est-ce qu'on veut vraiment savoir. Poser à plat les hypothèses et toutes les idées qu'on pense avoir pour qu'on aille vérifier si elles sont justes ou pas. Et c'est ça qui permet de mener la discussion par la suite. C'est pas une discussion ouverte, hein, c'est pas un champ libre et advienne que pourra. Il faut vraiment cadrer les choses. Et tu vois, pour moi, j'ai vraiment, enfin, aujourd'hui et même moi, hein, si je pouvais, je passerais ma journée à parler avec des gens et je ferais pas de cadrage, tu vois. Enfin, mais c'est la manière dont tu vas cadrer ta research qui va faire que tu vas t'adresser aux bonnes personnes qui vont répondre à tes questions. Donc, il faut passer du temps à se poser les questions avant, justement, tu vois.
Et est-ce que c'est pas un peu la même chose quand tu fais des tests utilisateurs?
C'est exactement la même chose. Tu vois, enfin, tu cadrer, en tout cas, c'est pour moi, c'est essentiel. Enfin, tu vois, c'est comme tu veux manger un trop bon gâteau au chocolat, et tu vas devoir suivre une recette pour le faire. Ou alors tu vas chez Picard. Mais en tout cas, si tu veux tout faire bien, il faut que tu suives la recette. Et peut-être que suivre la recette, pour ceux qui aiment pas forcément, cuisiner, mais qui adorent manger des gâteaux au chocolat, c'est chiant à faire. Tu le fais quand même, tu vois. Enfin, et après, tu manges ton gâteau au chocolat. Donc, parler à des utilisateurs, oui, mais avant, poser des hypothèses. Et tu vois, des scénarios de test, ils arrivent tout seuls dans ta tête à partir du moment où tu as posé tes objectifs, où tu sais pourquoi tu vas aller solliciter les gens. Où tu sais quelles sont les hypothèses qu'on a, que ce soit des hypothèses que tu as une intuition ou des hypothèses que tu as par justement de la data analyse, par de la product analyse. À partir du moment où tu as posé ces hypothèses et que tu les as priorisées, tu te dis, OK, j'ai 35 minutes, 40 minutes avec mes utilisateurs, je vais pouvoir aller répondre à cette hypothèse. Et bah, du coup, pour y répondre, je peux me glisser dans tel scénario. Tu vois, et c'est exactement la même chose pour moi. C'est cadré, c'est crucial. Voilà.
On a discuté de comment trouver les bonnes personnes, comment aller les chercher. Et là, tu as parlé de cadrer, de créer des hypothèses, des questions, des objectifs. Comment on fait pour créer des bonnes hypothèses et des bonnes questions? Et je pense que l'inverse est vrai aussi, c'est qu'est-ce qu'il faut éviter de faire quand on se pose des hypothèses et des questions pour éviter de biaiser la recherche et de faire en sorte que tous les résultats soient foirés.
Alors moi, j'ai envie de te dire qu'il n'y a pas de mauvaises hypothèses. Déjà, je pense que c'est important que tout le monde puisse justement soumettre ses hypothèses. C'est le moment de le faire, en fait. Donc, tu vois, si 8 personnes de l'équipe produit pensent l'hypothèse A, mais qu'une personne a l'hypothèse B, eh bien, allons tenter hypothèse A et hypothèse B. C'est intéressant. Ça permet de rallier aussi l'équipe et de se dire, voilà, on sait pourquoi on va prendre telle décision. Et c'est plus telle hypothèse que la seconde. Voilà. Donc, il n'y a pas de mauvaise hypothèse pour moi. Ensuite, sur les questions, là, oui, il y a des mauvaises questions. Il y a clairement des mauvaises... Là, je parle de questions à poser aux utilisateurs. Je sais pas si c'était ta question, si c'est bien c'est ça ou question. Pas. OK.
Du coup, ça fait de ma question une mauvaise question.
je ne sais plus. Mais en tout cas, oui, il y a des mauvaises questions. Il y a des questions qui sont... biaisé quand on les pose de fait et on s'en rend pas forcément compte. Et en fait, ce qui est assez marrant, c'est que maintenant que depuis que je suis user researcher, je ne biaise plus mes questions en les posant et ça c'est ouf, tu vois. Mais dans ma vie au quotidien, tu vois, tout bête. Mais par exemple, si je te pose la question, tu l'aimes cette feature? Bon, alors, tu vas me dire, je sais pas, tu vas avoir du mal à me dire non, tu vois. Tu vas me dire, ah, je sais pas, si elle me demande comme ça, c'est que peut-être que je dois lui dire oui, tu vois. Ouais. Mais tout bête, mais si je te dis juste, est-ce que tu l'aimes cette feature ou pas? Est-ce que ça t'a aidé à te déplacer, je sais pas, est-ce que tu as l'impression d'être arrivé plus rapidement à destination ou pas? Tu vois, tout bête, mais ce ou pas, il permet juste à la personne de se dire, oh, ok, j'ai le droit de dire ou pas, en fait. je peux choisir, tu vois. Et du coup, dans chacune des questions que je vais poser à chaque fois à un utilisateur, soit c'est une question complètement ouverte, typiquement, comment tu fais pour aller dans Paris intramuros? Tu vas juste me raconter comment tu fais. Et sinon, c'est toujours quelque chose ou pas, parce que cette porte de sortie, elle est hyper importante, tu vois. Et ça, c'est juste un petit tips. Et déjà, si on passe par ça, on limite pas mal les biais.
OK. Une fois que tu as fait toute cette recherche, que tu as récupéré des insights, comment tu les partages avec les gens? Et y a une autre question que j'aimerais te poser aussi, c'est que comment tu fais, toi, pendant ta recherche, pour récupérer les insights des autres? En fait, ma vraie question, elle est plus globale, c'est comment vous partagez les insights? Parce que, on le sait très bien, tu as le service client qui va récupérer des informations auprès des utilisateurs, les commerciaux peuvent le faire. On a déjà parlé des data analysts qui récupèrent un autre type d'informations, mais tu vois, service client, commerciaux, user researcher, généralement, tout est orienté utilisateur et tu récupères des besoins. Toi, tu vas récupérer des informations s'il y a des hypothèses, mais eux, peut-être qu'ils ont déjà les réponses alors que tu n'as même pas besoin d'y aller. Comment tu fais pour partager et récupérer les insights de tout le monde?
Gros sujet.
Ah oui.
Gros sujet. Alors, on a combien de temps? Gros sujet, et j'ai pas de réponse unique à te donner là-dessus. C'est un sujet phare, cœur, dans le monde de la user research et dans le monde du produit. Hein. Dans tous les cas, là, c'est cette question-là, de comment tu centralises les données, comment tu l'utilises bien, quel que soit ton profil dans l'entreprise. Il n'y a pas de recette miracle encore aujourd'hui là-dessus. Ça dépend beaucoup du niveau de maturité de l'équipe produit sur la collecte d'insights, on va dire. Imaginons que tu es dans une équipe où t'as pas justement d'outils construits présent, d'outils internes qui te permet justement de centraliser, d'aller chercher, etc. Quel que soit l'outil, il y en a plein. Il y a du Dovetail, Aurelius, Notion, enfin, il y a plein de choses. Si t'as pas ça, tu peux faire comme je l'ai fait souvent, tu fais la fouine. C'est-à-dire que tu vas dans les Slack tous les jours. Tous les jours. C'est-à-dire que, tu vois, notamment chez Swile, tous les jours, j'allais dans les Slack des CSM sur les différentes cibles, des Customer Success. Je regardais, tu vois, je lisais, pas forcément pour répondre, mais je lisais, si je voyais quelque chose qui était tombé, j'étais là, ah, comme on l'a vu la dernière fois, ça, moi aussi j'ai eu des retours, etc., etc. Donc plus, tu y vas de toi-même et tu regardes un peu ce qui se passe partout. Après, sur la manière de centraliser les insights, moi, j'ai le sentiment, mais je suis pas pareil, tu vois, je suis pas une experte du sujet, mais j'ai le sentiment que Notion peut déjà être un bon pas pour se dire, voilà un espace où vous pouvez aller, quel que soit votre produit, donner du poids à un insight, tu vois, en particulier, rajouter des insights, etc., etc. Et après, et en parlant surtout beaucoup avec d'autres personnes de la communauté, enfin d'autres user researchers, d'autres PM, je commence à me construire une conviction tout de même aujourd'hui que avoir un outil qui centralise toutes ces données, c'est difficile que ce soit autoporteur. C'est difficile que ce soit au bon vouloir de chacun d'être hyper bon sur l'outil et de l'utiliser exactement comme il faut pour que tout le monde soit d'accord et tout le monde s'y retrouve. Donc je pense que avoir, mais peut-être que je me trompe vraiment, hein, mais à faire le choix de passer par ce type d'outil-là et vraiment d'avoir un outil qui permet de centraliser la donnée utilisateur, c'est faire le choix qu'une personne soit lead sur cet outil, tu vois, qu'il y ait un PM de ce produit. Et peut-être que dans des entreprises, ça fonctionne très bien qu'il y ait par exemple une équipe produit avec plein de PM, de PO, de product designer et des markets et des machins et plein de trucs. Et peut-être que ça existe, qu'il n'y ait pas besoin de lead sur cet outil-là pour que tout le monde l'utilise hyper bien, tag hyper bien les sujets, ramène bien les insights, pense toujours à le faire, etc. Je pense que ça peut être compliqué quand même. Donc, je ne sais pas aujourd'hui s'il faut se dire... faut absolument qu'on ait cet outil-là, type un Dovetail, parce que c'est ouf, et que du coup, ça permet d'avoir la donnée à dispo. S'il y a personne pour être un peu le maître de tout ça, et rappeler les gens à l'ordre, et les chauffer, et les motiver à bien faire les choses, je sais pas si ça marche ou pas. Tu vois, je ne pourrais pas te dire encore aujourd'hui.
Non, mais je pense qu'il n'y a pas de bonne réponse. Je pense qu'on est tous confondus un peu plus ou moins au même problème, et qu'on essaie de plus ou moins réussir à trouver comment faire en fait pour réussir à allier tout ça et à faire que tout le monde travaille ensemble et que tout le monde puisse donner le bon niveau d'information à chacun.
Mais tu vois, c'est trop bien. Et en fait, mais peut-être que je me plante, mais tu vois, c'est génial. C'est juste ouf qu'on en parle de plus en plus. Et c'est génial que de plus en plus d'entreprises se disent « Ah, ce serait trop bien qu'on soit équipé d'un truc, d'un espace dans l'entreprise où on a toutes les données utilisateurs. » Bah, trop bien. Mais en fait, j'ai l'impression qu'on a presque loupé une étape en France où on est passé du néant, tu vois, du pas de recherche, etc., à ouais, on va avoir un super outil qui va tout centraliser. Et du coup, on n'a peut-être pas tout coordonné à l'intérieur pour réussir à poser tout ça de manière stable. Donc, j'ai l'impression que parfois, on met un peu la charrue avant les bœufs. Et tu vois, même pour te donner un exemple hyper concret, c'est pour ça que je dis que je suis pas experte et moi j'apprends à fond sur le sujet. Tu vois, chez Itch, il y a un an, du coup, enfin en mars dernier, donc on a fait cette grosse discovery et puis on avait décidé de centraliser les insights sur Airtable. Et tu vois, je pense qu'on n'a pas assez bien cadré tout ça. Je pense que j'aurais pu faire mille fois mieux sur plein de choses, hein, notamment sur le choix de l'outil. Et là, on va essayer de challenger ça au max et de se poser les bonnes questions pour savoir quel est le meilleur moyen de pouvoir justement mettre à dispo la donnée et que les gens aient envie de l'utiliser et envie de la répertorier, etc. Donc, peut-être pas forcément mettre la charrue avant les bœufs et ouais, vraiment se poser les questions de quoi on a besoin, qui va l'utiliser, qu'est-ce qu'il recherche, etc., etc. Tu vois, il y a le cadrage, quoi, comme d'hab, cadrage.
Ouais. Je te rejoins vachement là-dessus sur la nécessité de cadrer, d'avoir quelqu'un qui gère ça. Moi, je le vois dans ma boîte, c'est surtout les PM qui font ça, qui ont un outil qui s'appelle Prodpad.
Ouais.
Et elles vont récupérer les informations du CS, elles vont créer des tickets dedans. Parfois, quand on fait des interviews, comme on est toujours ensemble, elles vont créer des tickets. Et en fait, ce qui fait que des fois, quand on arrive sur des sujets de type « Ah, ben, on va refaire ça » ou « On va réfléchir à ça », c'est « Ah, attends, il y a déjà ça, ça et ça qui sont remontés. » Et ce que tu disais un peu tout à l'heure, ça va soit nous donner des hypothèses, soit commencer à nous demander « Ok, est-ce que c'est un retour parmi un retour ?» ou « Est-ce que c'est un retour qui cache l'iceberg ?» Enfin, c'est le sommet de l'iceberg.
C'est
ça. Et en fait, ce qui est en dessous, c'est des dizaines de personnes qui ont le même problème et qui ne nous l'ont jamais dit.
Ouais, et non, exactement. Exactement.
Comme t'es freelance, j'imagine que toi, à la fin, t'as quand même un rendu à faire, et puis même quand tu fais de la recherche, il y a toujours un rendu à faire pour expliquer aux gens comment c'est, ce qu'on a découvert, comment ça se passe. Toi, comment tu fais pour rendre quelque chose une recherche de digeste, parce que ça peut être des tonnes de pages, des slides PowerPoint, enfin tu vois, il y a 15 000 façons de le faire. Comment tu fais pour que ça soit à la fois concis et pertinent?
Ouais, pour moi, il y a deux choses, tu vois. Il y a comment tu rends ta slide digeste, parce qu'il y a des personnes, enfin tes slides. Moi, je passe tout de même, tu vois, sur de la récit discovery, un peu fat, tout ça. Je passe quand même beaucoup par, pas du PowerPoint, hein, du Google Slide, quand même. donc déjà, comment tu rends ça digeste, c'est un premier point. Et il y a aussi comment tu donnes envie aux personnes de t'écouter. Et ça, c'est autre chose, tu vois. Il y a cette notion de storytelling et qui se reflète aussi finalement dans tes slides derrière. Moi, il y a un truc, et c'est marrant parce qu'au final, tu vois, chez Swile notamment, j'ai fait plein, enfin en 9 mois, je crois que j'en ai fait 27 ou 30 des research, donc c'est beaucoup.
Ouais.
Et avec plein de teams différentes. Et tu vois, la manière dont j'introduisais à chaque fois mes restites, au final, il y avait certaines personnes, certains profils qui parlaient pour moi en disant « On sait, tu vas pas être sympa, t'es pas là pour être sympa, on n'a pas le temps, non, non. » Donc, tu vois, voilà, enfin, je veux dire, sur un user test, je suis pas là pour brosser mes clients dans le sens du poil à dire « Ah, bah ça, c'est vraiment, mais alors que c'est vraiment super. » Enfin non, je vais pas mettre 40 verbatim qui disent « C'est incroyable, ce petit bouton ou cette petite feature. » Enfin, on s'en fout. Moi, j'ai pas le temps. Moi, je suis là pour les faire avancer sur le produit. Et tu vois, donc voilà, je leur explique un peu que va pas falloir pleurer, qu'il y a plein de choses. Il y a plein de choses qui remontent. Il y a plein de choses. Il y a des choses qui vont. On en parle en slide principal, tu vois. Enfin, moi, je dis un peu les gros insights. Et après, enfin, tu vois, par exemple, sur du user test, t'as les gros insights et ensuite tu vas détailler tout ça un peu page à page. Donc ouais, dans les gros insights, je vais leur expliquer ce qui est top et ce qui ajoute, enfin, ce qui a vraiment de la valeur, on va dire, aux yeux de leurs utilisateurs. Génial. Après, c'est bon, quoi, on n'en parle plus, on se concentre sur l'essentiel qui est, voilà, ce qui doit être amélioré, tu vois. Donc il y a déjà un petit peu ça où je pense que par ma personnalité, ils savent un petit peu où je veux en venir à chaque fois. Moi, dans la manière dont je construis mes docs de synthèse, je suis pas là pour exposer ma science, tu vois. Comme je te le disais, moi je suis pas un énième avis autour de la table. Limite, on s'en fout de ce que je pense, en fait. Moi, je suis là pour rapporter la voix des utilisateurs de mes clients. Donc, ce qui est intéressant, c'est de nourrir au max, quel que soit le support, par des quotes, des verbatims clients, tu vois. Et c'est ça qui a du poids. Et au final, mais je veux dire, on peut s'arrêter 15 minutes sur une slide, c'est pas sur ce que moi je raconte, hein. C'est sur les petits verbatims que je peux avoir dedans, c'est ça qui a de l'impact, tu vois. Ce qu'on faisait aussi pas mal à l'agence, je l'ai pas fait depuis, mais on faisait beaucoup de clips vidéo, tu vois. Sur du user test notamment, au moins t'arrives et je pense que c'est un outil très très fort pour convaincre, tu vois, je sais pas, un CEO, quelqu'un, tu fais un clip de 2 minutes avec le best-of des moments les plus complexes, on va dire, sur la nav. Ouais, franchement, enfin voilà, c'est hyper parlant et tu vois, enfin, juste on fait parler, enfin on discute en tant que user researcher avec des personnes, des problèmes qu'ils rencontrent sur le produit ou dans la vie ou autre. C'est ça qu'il faut mettre en avant, voilà. Moi, je suis pas là pour faire une thèse de ce que j'ai compris, quoi. C'est ça, on s'en fout. Donc c'est beaucoup ça et donc ouais, autant sur les docs que je laisse, donc en fait pour moi c'était plusieurs, enfin il y avait le moment de la restitution où part très fort du storytelling avec une présentation quand même avec beaucoup de verbatim qui viennent étayer les propos que j'apporte. Ensuite je partageais ça avec vraiment les key insights sur le Slack que j'avais créé, donc User Research, tu vois, notamment chez Swile, et je le repartageais sur les autres Slack des équipes qui pouvaient être intéressées de près ou de loin, tu vois, en leur disant, mais on s'en parle quand vous voulez, etc., etc. Et après, tu vois, enfin, c'est le genre de sujets qui peuvent très vite retomber, notamment sur des rituels, enfin, tu vois, Weekly Research. On a l'impression qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas fait. Ah bah, allez regarder ce qui se passe là, etc., etc. Et au final, ce qui me rassure pas mal, c'est de me dire que, tu vois, je continue à discuter pas mal avec certaines personnes de chez Swile et ils utilisent encore certains des supports. Donc, je me dis que ça fonctionnait assez bien. Donc, c'est cool. Mais ouais, pour moi, c'est quel que soit le support, faire parler les users, c'est vraiment la matière naturelle, brute, qui est intéressante. L'analyse ensuite, mais c'est vraiment la matière brute qu'il faut garder en tête aussi, je pense.
Ça t'arrive aussi parfois de faire des recherches sans discuter avec des utilisateurs? Je pense principalement à l'analyse de vidéos, par exemple, comme Hotjar ou des éléments comme ça. Est-ce que c'est quelque chose que... je sais pas, par exemple, on peut se dire si on veut mettre en place de la recherche utilisateur dans une entreprise, c'est la step 1. Alors oui, tu n'auras pas de verbatim dans ton compte-rendu, mais en fait, tu pourras te rendre compte qu'il y a des problèmes à certains endroits. Est-ce que c'est... une première étape, est-ce que c'est quelque chose où il faut tout de suite passer à la suite? Qu'est-ce que t'en penses?
Non, franchement, c'est une première étape, c'est déjà hyper bien. Tu vois, pour moi, toutes ces analyses, ces recordings, enfin screening recording, etc., c'est un peu comme, enfin c'est comme du quanti, tu vas comprendre du quoi, tu vas dire, oh putain, il a galéré à tel et tel et tel endroit, oh il y a un pattern, là c'est marrant, il stresse toujours quand il y a sa pop-up qui arrive, tu vois, enfin, ils ont l'air de stresser, en tout cas, parce qu'il a fermé et qu'il retourne en arrière et qu'il reprenne du début, tu vois. Donc, ça donne déjà des billes. Non, franchement, c'est déjà une première étape. Je pense qu'on peut rester...
Pas suffisant,
parce qu'au final, tu vas te dire, bon, bah, je sais pas, là, ça a l'air de stresser les gens, mais qu'est-ce qui est attendu? Pourquoi c'est stressant? Qu'est-ce qui fait qu'il retourne en arrière? Est-ce que c'est juste la pop-up? Est-ce que c'est parce qu'il y a un manque de réassurance autre part sur la page? Est-ce que c'est... Enfin, tu vois, ça peut être plein de choses.
Ouais. En fait, c'est un bon élément pour appuyer les verbatims que tu vas avoir ensuite.
Ouais, tout à fait. Et tu vois, le screen recording, ce qui est cool, c'est que moi, j'en faisais beaucoup, beaucoup d'analyse aussi. Enfin, beaucoup, beaucoup. Ouais. Je pense qu'il y a, tu peux t'en tourner quand même un bon nombre, tu vois. En
indéfiniment,
fait, ouais. Ouais, et en fait, il y avait des moments clés, tu vois, encore une fois, notamment chez Swile, il y avait des moments clés quand même dans le mois pour les RH. Par rapport à la gestion des TR, des titres resto. Et donc, c'était intéressant pour moi d'aller regarder, tu vois, sur ces moments clés, qu'est-ce qui se passe, tu vois, qu'est-ce qu'elles font sur la plateforme, etc., etc. Et donc, franchement, c'est une première pierre et c'est même une bonne pierre déjà à partager aux équipes et à dire, allez jeter un petit coup d'œil, regardez ce qui se passe, peut-être, ah bah, vous voyez, c'est le sujet qu'on a abordé la dernière fois, donc, on a vu 5 utilisateurs, c'est peut-être pas beaucoup, on avait ça, et bah là, regardez, il y a 20 records qui montrent la même chose, il y a vraiment un axe à creuser, enfin, donc c'est une très très bonne combinaison avec du Kali, et c'est déjà un très très bon pas franchi d'intégrer ça, quoi, et de prendre du temps pour les regarder, et le problème, c'est que c'est très chronophage quand même d'avoir ce type d'outil.
Je confirme.
Ouais.
J'ai une dernière question pour toi. T'as commencé à faire du freelancing en janvier 2020.
Ouais.
Donc, on va dire que 2 mois après, rencontrer des utilisateurs physiquement, c'était mort.
Ouais.
On a pour habitude de dire qu'il vaut mieux rencontrer ses utilisateurs et ses clients en vrai pour bien comprendre un peu comment ils utilisent la plateforme, les mettre dans le bon environnement, pouvoir discuter, les mettre à l'aise, etc. Est-ce que avec l'apparition du Covid, et tout ce qui en a suivi, est-ce que tu as ressenti des changements et des évolutions dans ton métier?
Alors, 2 choses. Je ne peux être que d'accord avec ce que tu dis quand on parle de test utilisateur, parce que c'est hyper intéressant de voir la personne physiquement et ses réactions quand elle est confrontée au produit ou au service. Ça, je pense qu'on a beaucoup perdu avec le Covid là-dessus. Tu vois, très rarement, enfin, si même tu fais des tests utilisateurs par un outil de partage d'écran, tu vas pouvoir voir le visage de la personne, mais tu peux pas, il y a beaucoup de choses en moins que tu captes, donc là je suis d'accord, c'est dommage. Néanmoins, sur la partie plus discovery, je pense pas que ce soit un frein. Pareil, je pense qu'il y a des personnes qui seront pas forcément d'accord sur ce point, mais passer par téléphone ou par visio, je trouve que ça va très bien pour de la discovery. Déjà, c'est très pertinent sur du B2B. Je connais pas ou peu de clients B2B qui sont OK pour se déplacer, faire une heure d'interview, partir. Donc c'est juste génial d'avoir le téléphone ou un petit partage d'écran pour avoir...
J'avais plus en tête aussi l'inverse, où c'est toi qui peux te déplacer chez
ouais.
Toi.
Ouais. Et... Ah, mais imagine le temps que ça prend, tu vois. Enfin, si... tu vois, c'est compliqué. Ça veut dire que... Enfin, tu vois, je prends un exemple tout bête, hein, Agicap. Si Agicap devait faire de la research et aller chez les clients à chaque fois, t'en fais max 2 par jour, du coup. Et donc, ta disco, tu l'as fait en...
Bah, non, je te pose la question parce que tu vois, bah, par exemple, travaillant dans le médical... Je me rends compte que si tu vas pas voir les clients, enfin si tu vas pas voir les clients, si tu vas pas dans les hôpitaux, tu perds un petit peu cette ambiance de c'est des hôpitaux où ils travaillent sur des ordis assez anciens, c'est pas des comme dans certaines boîtes où c'est hyper récent, t'as du monde autour, t'es coupé, donc tu t'imprègnes quand même vachement de l'ambiance de travail et tu te réalises que en fait la personne qui doit faire une action ou toi quand tu le testes c'est un clic et tout va bien, là c'est tu vas cliquer mais en fait il y a machin qui te demande un truc, bidule qui te demande un truc, t'es déconnecté, tu dois te reconnecter, tu vois, c'est plus dans ce sens-là où je trouve que tu perds un petit peu.
T'as entièrement raison, et tu vois là-dessus, effectivement, toi ce que tu fais au final pendant tes interviews, c'est que tu fais aussi de l'observation, tu vois, tu vas sur le terrain, tu prends un peu ton rôle de petite souris en même temps, et tu regardes autour de toi, et tu regardes la personne galérer avec son Windows je ne sais quoi, tu vois, donc ouais, c'est hyper pertinent, et t'as totalement raison là-dessus. Je pense que sur ce point, je dissocie juste un petit peu plus, tu vois, vraiment la partie discussion, de la partie observation. Mais t'as entièrement raison, tu vois, enfin, en ayant bossé notamment avec des boîtes comme Point P, tu vois, les matériaux de construction, interviewer un artisan par téléphone et voir la réalité de son métier, c'est quand même pas du tout la même chose, vraiment. Donc là-dessus, je suis totalement d'accord avec toi. Mais ça n'empêche que je ne pense pas que le Covid ait beaucoup transformé le métier d'un point de vue discovery. Je pense que ça a été beaucoup plus simple finalement d'avoir des personnes dispo parce que tout le monde est chez soi et que du coup c'est beaucoup moins complexe, tu vois, de se cacher dans un autre bureau pour passer un appel pas professionnel, tu vois, enfin voilà, donc ça aide beaucoup. Et après je pense qu'il y a un effort de modération qui est beaucoup plus intense quand t'es à distance que quand t'es en physique. Et donc c'est beaucoup plus fatigant d'un point de vue user researcher, parce qu'il faut stimuler à fond, il faut verbaliser, mais alors enfin faire verbaliser 2 fois plus, parce que justement au téléphone tu vois pas, tu comprends pas les silences de la même manière que tu les comprends quand t'es en face à face. Donc voilà, donc il y a plus d'efforts, mais c'est pas impossible de faire de la user research du tout. Et après voilà, je pense que, et un conseil que je peux donner beaucoup pour limiter les freins là-dessus, c'est de s'adapter au maximum à la personne qu'on a en face, que ce soit du B2B ou du B2C, de l'utilisateur en face, je veux dire. C'est-à-dire poser la question, comment vous voulez que je vous joigne ? Est-ce que c'est mieux le téléphone ? Est-ce que c'est mieux le partage d'écran ? Est-ce qu'on passe par votre outil, par mon outil ? Voilà, de simplifier au max le process, c'est hyper important. Parce qu'on a beau tous être forcés d'être surdigitalisés là, on n'est pas tous experts là-dessus. Donc ouais, s'adapter au max à ce qui est possible et voilà, mais être 2 fois, 3 fois, 10 fois plus attentif à tous les signaux que l'utilisateur peut donner, que ce soit verbal ou pas, quoi.
C'est genre, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, de l'importance d'être aussi accompagné avec d'autres personnes pour pouvoir t'aider à faire ça, pour que ça prenne moins d'énergie et que tu puisses tout voir. Roxane, on a passé quasiment 1h30 ensemble à parler de user research et on en arrive à la fin de cet épisode. Avant qu'on se quitte, est-ce que tu as des ressources à nous partager ?
Ouais, alors, faut savoir que moi, je suis pas une grande lectrice, déjà. Voilà. J'aime pas les tableaux Excel, je suis pas une grande lectrice, si on va retenir de ce podcast. Moi, je me nourris tout simplement beaucoup, beaucoup de podcasts. J'ai Product Squad, évidemment, d'Axel Soria, que j'adore, enfin, autant le podcast que la personne. Donc, Product Squad, j'ai toujours eu des personnes hyper inspirantes sur chaque épisode. Écoute, il y a le tien, j'en ai pas loupé un, donc je le dis quand même. Hein. Je le donne quand
Merci
même.
Beaucoup.
Ça fait lèche-botte, mais je sais que je suis pas la seule à le dire, donc je peux le dire. un autre podcast, mais là qui est en anglais, qui est américain, que tu connais peut-être, qui s'appelle Awkward Silence.
Non, mais je vais le prendre en note.
Top, qui est vraiment très bien, qui est consacré exclusivement à la user research. Et super inspirant aussi. Enfin, moi, je l'ai écouté un peu de fond en comble au premier confinement. J'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup d'épisodes à rattraper. Il est top. Et après, d'un point de vue un peu plus... pas forcément design, toujours sur du podcast, mais des choses qui m'inspirent à fond. Génération Do It Yourself, Phoenix, l'échec mentionne très bien. Je ne sais pas si tu connais, mais hyper inspirant.
Je connais.
Ouais. Voilà, et autre chose, ouais, que je conseille à toute personne qui est intéressée par la user research, quel que soit le niveau de maturité de l'entreprise, il y a une personne qui s'appelle Lucky Primadani, qui est user researcher chez Flixbus et qui était la première user researcher à arriver chez Flixbus. Et puis ils sont pas mal maintenant. Et elle a fait pas mal de conférences. Elles sont dispo sur YouTube. Cette femme est hyper inspirante. Et elle détaille très très bien la manière dont ils sont arrivés là où ils en sont aujourd'hui d'un point de vue user research. Donc voilà, je conseille à fond.
Je mettrai tous les liens dans la description.
Trop cool.
Est-ce que tu n'as pas oublié de parler d'un podcast ? Le tien ?
Oui, mais j'ai aussi lancé Quote, donc un podcast dédié à la user research en France. En tout cas, pour le moment. Donc ouais, j'ai lancé Quote il y a un tout petit mois de ça. Le deuxième épisode est sorti. J'ai eu la chance d'avoir Mathilde, donc de chez Payfit, et France qui est CPO chez Tandems pour le moment. Plein d'autres personnes arrivent bientôt, mais ouais, merci merci de me faire le mentionner. J'avais zappé.
Ouais, je t'en prie, je mettrai aussi le lien dans la description pour les gens qui veulent aller écouter tes épisodes. Roxane, s'il y a des gens qui veulent te contacter, on les renvoie vers quelle plateforme ?
LinkedIn, je réponds hyper vite, je suis tout le temps connectée dessus, donc Roxane Lacotte, vous me trouverez facilement. Ouais.
Je mettrai ton profil aussi dans la description, comme ça, cool. Ça sera beaucoup plus simple.
Ça roule.
Et même, en tout cas, merci beaucoup pour le temps que tu m'as consacré, Roxane, et tout ce que tu nous as appris, et puis à très bientôt.
Bah, je t'en prie, merci beaucoup à toi, c'était trop chouette.
Merci. Salut.
Ciao, salut.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous l'avez aimé, n'hésitez surtout pas à vous abonner sur votre application de podcast préférée. Vous pouvez aussi mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts, c'est ce qui m'aide le plus à faire découvrir l'émission. À très bientôt.